n'est pas là pour philosopher, Carpentier.
Quand même. Incroyable.
Bonjour Géraldine.
Bonjour Adèle, bonjour à toutes et à tous. Il y a quelques mois, un ami m'a offert le chef-d'œuvre de George Eliot, Middlemarch. Je ne cesse depuis d'en recommander la lecture. Seul problème, je ne l'ai toujours pas fini.
Miss Brooke était belle, de cette beauté que semble mettre en valeur la simplicité des vêtements. Elle avait la main et le poignet si délicatement modelés qu'elle pouvait porter des manches dépourvues d'ornements, pareilles à celles que les primitifs italiens mettent à la Vierge Marie. Et son visage, autant que sa stature et que sa manière d'être, paraissait plus noble encore à cause de la discrétion de sa mise. À côté des modes provinciales, elle faisait ainsi songer à la grandeur touchante d'une belle citation de la Bible ou d'un de nos vieux poètes, insérée dans un paragraphe du journal quotidien.
Finesse d'analyse des mouvements de l'âme, beauté de l'écriture, des portraits acides aux dialogues réalistes, idée géniale d'avoir créé une ville de toutes pièces et d'en avoir fait la scène de tension entre un ensemble de personnages, leur laboratoire sentimental et l'espace de leur évolution intérieure, alliance d'ironie et d'empathie, voilà pourquoi je ne cesse de vanter depuis presque un an le roman de George Eliot, Middlemarch. Je crois même qu'on pourrait en tirer une philosophie. Ce serait une nouvelle théorie des sentiments moraux, élargie à l'échelle d'une ville et de ses événements, tirée de l'imagination reine et pas du seul intellect de son auteur. Je vais jusqu'à voir dans ce roman un concurrent de La recherche du temps perdu, de Marcel Proust. Et bien sûr, je ne manque pas de m'offusquer. Pourquoi, en France, personne ne connaît George Eliot? J'y vois un scandale, un grave manquement. Un manquement qui est en fait à la hauteur de ma mauvaise foi, car voilà, je n'ai toujours pas fini de lire ce roman. Alors c'est vrai, j'ai mes raisons, la fatigue, le manque de temps. J'ai des excuses aussi, le roman compte plus de 1000 pages. Mais est-ce suffisant? Car je le vois ce livre tous les soirs sur ma table de chevet, il me tend les bras, il me fait de l'œil, mais je le laisse là. Et ce n'est d'ailleurs pas la première fois que ça m'arrive. J'ai remarqué cette tendance chez moi, ne pas finir ce qui me plaît tout particulièrement. Pourquoi? D'où vient donc une telle absurdité?
Friends, a few brief words on this happy occasion. We're met together to celebrate the betrothal of my dear niece Dorothea to my good and learned friend, the Reverend Edward Casimir.
Dr. Lydgate.
Miss Vincey.
Pourquoi ne pas finir ce qu'on a commencé, mais qui plus est ce qui nous plaît? Il y a quelques semaines, je m'étais posé la question inverse. Pourquoi s'entêter à finir ce qui nous laisse indifférents, voire nous ennuie, au point parfois de frôler le masochisme? Drôle de paradoxe quand même. On s'inflige l'ennui, mais on s'empêche le plaisir. Et pourtant, n'est-ce pas si courant que ça quand on y pense? Mais oui, par exemple, pensez à toutes nos plaintes quotidiennes, banales, les efforts à faire, les courses, les transports, les réveils, le travail. Pensez aussi à tous ces vœux, ces espoirs qu'on a dans les prochaines vacances, l'approche du week-end, ces moments tant attendus où enfin on pourra s'amuser. Il faut le dire, l'ennui est courant quand le plaisir est rare. Mais quand même, de là à se l'imposer à soi-même jusque dans ses lectures, jusque dans ses loisirs, ce serait quand même cocasse, un comble. Pourquoi donc s'empêcher de lire jusqu'au bout ce qui m'a tant réjoui jusque-là? La réponse la plus évidente serait par peur de finir trop vite ce qui est si bien, pour faire durer le plaisir. Une autre réponse serait par goût, par bon goût même. Les belles choses se dégustent et ne s'avalent pas. Il ne s'agit pas seulement de faire durer le plaisir ici, mais de prendre soin de l'œuvre elle-même, par souci de la comprendre littéralement, de l'embrasser, de s'en imprégner totalement. Mais soyons honnêtes, ni l'un ni l'autre. Car au fond, je ne m'empêche pas vraiment de finir ce livre. Je ne le finis pas, purement, simplement. Quelque chose résiste en moi à l'achever, mais quoi alors?
Oh, c'est si bon!
What does "say si bon" mean, John?
Don't you know? It means that it's so good. When I say "c'est si bon," and I say "c'est si bon," because it's oh so good.
Ah, say it again.
Oh, mais oui. C'est si bon. Lovers say that in France, when they thrill to romance, it means that it's so good. C'est si bon. So
Il y a longtemps que je ne compte plus les livres commencés, aimés mais pas finis. Pareil pour les films, les albums de musique laissés en suspens. Mais plus que par souci de l'œuvre ou par envie de faire durer le plaisir, si je ne les finis pas, c'est parce que c'est tout simplement si bon. C'est trop beau, c'est trop engageant, c'est trop. On pense que c'est facile de se laisser aller au plaisir, mais je ne crois pas. Déjà parce que le plaisir n'est jamais qu'une question de laisser aller. Le plaisir se manipule délicatement, mais aussi parce que le plaisir est, comme je l'ai dit, assez rare. Une fois qu'on l'a, on se sent perdu. En vouloir plus, ce serait presque prendre le risque d'être totalement perdu.
Merci beaucoup Géraldine, votre chronique est à réécouter en ligne sur le site du Journal de la Philo.